Les matins se poursuivent avec le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous irons à Hong Kong au début de ce journal, alors que la ville a vu hier une marée humaine déferler dans ses rues. 2 millions d'habitants se sont mobilisés contre leur gouvernement pour le retrait d'une loi contestée et pour la démission de la chef du gouvernement hongkongais, Carrie Lam. Ce matin, elle multiplie les gestes d'apaisement. Nous y reviendrons dans moins d'une minute avec Dominique André.
En Turquie, le pouvoir lui aussi tente d'amadouer le peuple. Recep Tayyip Erdogan a autorisé la tenue d'un débat télévisé entre les deux candidats à la mairie d'Istanbul. C'est la première fois qu'un candidat de l'opposition au pouvoir obtient un tel temps d'antenne.
Le Venezuela continue de se vider de ses habitants. La frontière avec la Colombie a été rouverte la semaine dernière et des milliers de piétons continuent de fuir, nous dira Benjamin Delisle.
L'actualité en France, c'est le début des épreuves du bac 2019. Elle commence à l'instant sur fond d'appel à la grève de la surveillance des examens.
Et puis nous entendrons une archive saisissante, l'acteur anglais Christopher Lee qui assistait il y a 80 ans, jour pour jour, à la dernière exécution public en France. Une manifestation monstre, 2 millions de personnes dans les rues de Hong Kong. Hier, une ville qui compte 7 millions d'habitants, une marée humaine plus importante encore que la semaine dernière. C'est dire le niveau de colère des Hongkongais qui réclament toujours le retrait d'un projet de loi très contesté qui permettrait d'extrader des habitants de ce territoire semi-autonome vers la Chine. Des habitants qui veulent aussi voir partir la chef du gouvernement, Carrie Lam, mise en place par Pékin. Dominique André, vous êtes la correspondante de France Culture en Chine et vous vous trouvez à Hong Kong. Bonjour.
Bonjour.
Alors ce matin, le gouvernement hongkongais multiplie les gestes d'apaisement.
Oui, Carrie Lam voudrait bien effectivement calmer un peu le jeu à Hong Kong. La chef de l'exécutif local a présenté ses excuses d'abord aux Hongkongais pour les lacunes dans le travail du gouvernement qui ont entraîné beaucoup de conflits, de querelles dans la société hongkongaise, a-t-elle dit. Dans la matinée, les policiers, dont l'image de marque a beaucoup souffert après les violences de mercredi dernier, ont imploré quelques centaines de manifestants de quitter une dizaine de voies de circulation très fréquentées habituellement à Hong Kong. Et ces manifestants ont fini par partir pour s'installer dans un parc à proximité. Joshua Wong, qui est le visage jeune du mouvement des parapluies de 2014 et en prison depuis un mois, a été libéré. À sa sortie, l'opposant a appelé à la démission de Carrie Lam. Il a déclaré qu'il rejoignait ce mouvement de protestation. La chef du gouvernement local cristallise vraiment le malaise d'une majorité de Hongkongais. Selon un dernier sondage, 2/3 de Hongkongais ne l'apprécient pas. Le temps de Carrie Lam semble donc compter. Il est bien difficile d'affirmer qu'elle pourra aller au terme de son mandat qui expire en 2022.
Alors ce qu'on se demande à présent, Dominique, c'est qu'est-ce qui peut se passer maintenant à Hong Kong ?
Alors la situation est calme ce matin, en fait effectivement tout le monde attend, les Hongkongais attendent de savoir ce qui va se passer. Est-ce que Carrie Lam va être contrainte de démissionner sous la pression de la rue? En fait il n'y a pas que la rue, les milieux du business et de la finance souhaitent aussi que les choses reviennent à la normale. Hong Kong est une place financière internationale et puis les affaires c'est les affaires. Et puis il y a aussi ce qu'en pense Pékin. Carrie Lam a voulu faire passer en force un texte que le régime chinois soutient, mais elle a échoué dans la gestion de ce dossier très très délicat. Et à une dizaine de jours du sommet des chefs d'État du G20 qui va se tenir au Japon et où va se rendre Xi Jinping, une désescalade et un retour à la normale à Hong Kong seraient vraiment les bienvenus pour le président chinois.
Merci beaucoup Dominique André, en direct pour France Culture depuis Hong Kong. Au Royaume-Uni, la bataille pour la succession de Theresa May bat son plein, avec pour thème principal évidemment le Brexit. Hier, les candidats se sont affrontés lors d'un premier débat télévisé, en l'absence du grand favori Boris Johnson. Sur les 5 candidats présents, 4 ont assuré qu'ils chercheraient à renégocier l'accord de divorce avec l'Union européenne. Or, Bruxelles exclut de rouvrir les discussions. Autre débat télévisé très suivi hier en Turquie, où la bataille pour Istanbul se rejoue dimanche prochain. Le 31 mars dernier, en effet, 10,5 millions de Stambouliotes avaient voté pour choisir leur maire. Élection annulée par le pouvoir, sous prétexte contexte d'irrégularité. Il se trouve que c'était un candidat d'opposition qui était arrivé en tête de la plus grande ville du pays, Ekrem Imamoglu. Il espère l'emporter une seconde fois face au candidat soutenu par Recep Tayyip Erdogan. Les deux hommes se sont donc affrontés hier soir lors d'un débat à la télé, un événement en soi exceptionnel puisque cela fait 17 ans que le président turc n'autorise plus de tels débats. Les précisions de notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer.
Un débat politique sans véritable gagnant ni perdant, sans séquence inattendue ou réellement marquante, mais qui a au moins eu le mérite d'exister et de s'imposer dans les foyers turcs, puisqu'il était retransmis par toutes les grandes chaînes. Le candidat d'opposition, Ekrem Imamoglu, est toutefois apparu plus préparé ou plus à l'aise que son rival. Plus offensif aussi, notamment quand il s'est agi de revenir longuement sur l'annulation du scrutin du 31 mars et sur l'enjeu du vote de dimanche.
Ce nouveau scrutin est une lutte pour la démocratie. C'est une lutte contre ceux qui ont volé notre droit, contre ceux qui ont volé le droit de 16 millions de nos concitoyens. C'est une lutte pour offrir une gestion propre à Istanbul.
Les deux hommes avaient pour consigne de ne pas se couper la parole. Binali Yıldırım, candidat du pouvoir, a eu du mal à s'y tenir. L'ancien Premier ministre a cherché à ramener le débat sur les réalisations de son parti à Istanbul ces 25 dernières années et sur ses promesses de campagne. Le modérateur n'a pas résisté à lui demander s'il accepterait le verdict des urnes cette fois-ci.
Le résultat d'un scrutin doit être accepté, mais un scrutin c'est aussi un processus juridique. Donc si le dépouillement des bulletins doit à nouveau être contesté, il le sera. Mais peut-être que cette fois ce ne sera pas nous, mais M. Imamoglu qui contestera.
Qu'il ait ou non un impact sur les résultats du 23 juin, ce long débat de 3 heures n'en était pas moins historique, car inédit depuis près de 20 ans. Et pour beaucoup de chaînes turques, c'était la première fois depuis de longues années qu'un membre de l'opposition se voyait accorder un tel temps d'antenne.
On en parle un peu moins, mais la crise continue au Venezuela. Le pays est en proie à une crise économique sans précédent. Depuis une semaine, la frontière entre le pays et la Colombie a été rouverte sur ordre du président Nicolas Maduro. Une réouverture partielle puisque seuls les ponts piétons peuvent être empruntés, mais cela n'a pas empêché des dizaines de milliers de Vénézuéliens de les traverser la semaine dernière, entre 35 000 et 50 000 par jour selon les autorités. Le reportage de l'envoyé spécial de France Culture à cette frontière, Benjamin Delisle.
Le soleil est à peine levé que déjà des milliers de personnes se massent à l'entrée du pont Simón Bolívar, côté vénézuélien. Denis vend des billets de bus vers le centre de la Colombie, le Pérou, l'Équateur. Il tente de repérer ceux dont la valise est pleine, ceux qui ne reviendront pas au Venezuela.
L'immigration, c'est tous les jours. Ça augmente parce qu'avant, c'était seulement les hommes seuls. Maintenant, ce sont les enfants, les femmes qui partent, les familles, les vieux.
Selon les autorités colombiennes, ils sont 5000 à émigrer chaque jour légalement, beaucoup plus si l'on compte les clandestins, selon Denis.
La grande majorité traverse sans papier car ils n'arrivent pas à obtenir leur passeport.
Ceux-là font appel à des passeurs comme Frankie pour traverser la rivière entre les deux pays et éviter les nombreux groupes criminels qui infestent la zone.
Désormais, je fais passer plus de personnes que de marchandises. Les gens qui n'ont pas de papier n'ont pas le choix.
De l'autre côté, José et sa famille ont enfin réussi à passer. Derrière la fatigue, on lit sur le visage du jeune papa un grand soulagement.
Grâce à Dieu, nous sommes enfin en Colombie. On va aller de l'avant avec ma famille. Maintenant qu'on a passé la frontière, on veut aller jusqu'en Équateur.
Comme lui, ils sont déjà plus de 3 millions à avoir quitté le pays depuis 2015, selon l'ONU. Ils pourraient être 5 millions à la fin de l'année.
8h08 sur France Culture, la suite du journal sur les matins avec Anne-Laure Chouin. 4600 centres d'examen, le bac a officiellement commencé il y a quelques minutes pour 743 000 candidats. Une partie passe l'épreuve de philo, les bacs pro passent, eux, l'épreuve de français.
Le tout sur fond de menaces de perturbation de la surveillance de ces examens. Plusieurs syndicats appellent en effet à la grève. À Marseille, par exemple, la moitié des professeurs du lycée Marie Curie sont mobilisés, mais le rectorat avait prévu des renforts et c'est le cas dans plusieurs autres académies. Les grévistes protestent contre la réforme du bac qui s'appliquera en 2021 à base notamment de contrôle continu et de disparition des filières. En attendant, les futurs bacheliers planchent. Voyons avec Hakim Kasmi les particularités de cette édition 2019.
Cette année, le candidat le plus jeune aura 11 ans et le plus âgé 77 ans. Au niveau des filières, avec 53,5% des candidats, le bac général arrive en tête, suivent ensuite le bac pro, 25%, et le bac technologique, 21%. Au chapitre des nouveautés cette fois, 15 académies pilotes vont tester la dématérialisation des copies pour la correction des épreuves de sciences et de français. Les copies seront scannées, puis numérisées, ce qui permettra une meilleure sécurité, notamment en cas de perte des copies de la part d'un correcteur. Afin d'éviter d'avoir des journées de plus de 8 heures d'examen pour les 50 000 candidats handicapés qui bénéficient d'un tiers-temps supplémentaire, les épreuves du bac général s'étendront jusqu'à lundi prochain. Quant aux élèves de seconde qui passent en première à la rentrée, ils inaugureront la nouvelle réforme du bac. Terminées les séries S, L et ES, ils devront choisir 3 spécialités parmi les 12 proposées en théorie. Car dans la pratique, en moyenne, les établissements ne pourront proposer que 8. Résultat, pour se rassurer, les élèves ont choisi en grande majorité des matières qui correspondent aux anciennes filières. Enfin, si l'année dernière, 88,2% des candidats ont empoché leur diplôme, la proportion de bacheliers dans une génération est nettement plus faible, puisque un jeune sur 5, âgé de 18 ans, n'avait pas le bac en 2018.
Kim Kasmi, le coup d'envoi des élections municipales de 2020 est bien lancé ce midi. LREM va présenter ses premières investitures en vue du scrutin et hier c'était le Rassemblement National qui réunissait ses troupes à La Rochelle en vue d'établir une stratégie. Les deux partis arrivés en tête aux élections européennes s'engagent donc dans un nouveau bras de fer électoral, les précisions de Steven Gouaillet.
La campagne des élections européennes semble bien se poursuivre, dans l'aspect stratégique en tout cas. Le Rassemblement National comme la République En Marche ressortent les partitions qui les avaient propulsées aux deux premières places du scrutin. Appel à un front anti-Macron d'un côté, appel au Rassemblement Républicain de l'autre. Mais cette fois-ci, avec une victime toute désignée, le parti Les Républicains. Marine Le Pen, si elle ne chiffre pas pour l'instant le nombre de listes à venir pour les municipales, a hier lancé un appel aux militants et aux maires Les Républicains qui, je cite, n'ont pas envie d'être embrigadé avec Emmanuel Macron. La chef du parti ajoute « Nous sommes prêts à discuter avec eux dès les municipales ». Côté LREM, si une quinzaine de noms doivent être dévoilés ce midi, la question qui se pose, c'est celle du traitement des nouveaux élus venus de la droite. Le mouvement pourrait même soutenir des maires hors LREM, mais jugé Macron compatible, avec un rappel de la commission d'investiture, soutien ne signifiera pas investiture. Dans un cas comme dans l'autre, les stratégies semblent tourner vers le même objectif, renforcer un maillage territorial encore très limité pour des formations en manque d'élus locaux. Le numéro 2 du parti présidentiel, Pierre Person, ne s'en est d'ailleurs pas caché ces derniers jours, en affirmant qu'avoir des candidats partout permettra d'avoir un maximum de grands électeurs pour les sénatoriales de 2020. Fin de citation.
Le 53e salon aéronautique du Bourget ouvre ce lundi avec pour les professionnels deux urgences, le réchauffement climatique et les questions de sécurité. Le président de la République s'y rendra ce matin, une visite pendant laquelle il signera le contrat cadre du futur avion de combat franco-allemand, un projet auquel s'est également joint l'Espagne récemment pour développer donc le système de combat aérien du futur, dit SCAF. Et puis en ce qui concerne le trafic aérien, la flotte d'avions mondiaux devrait doubler d'ici 20 ans. Le défi écologique est donc envisagé plutôt du côté des matériaux que de celui de la baisse du trafic. C'était le 17 juin 1939, des habitants de Versailles assistaient à ce qui allait devenir la dernière exécution publique en France. La guillotine était dressée ce matin-là pour le tueur en série Eugène Weidmann devant l'ancienne prison Saint-Pierre de Versailles. Des exécutions qui se tenaient d'habitude pendant la nuit, mais cette fois-là, l'événement fut retardé, si bien que le jour était levé quand la foule, mais aussi des photographes et des caméramans ont pu assister à l'instant fatal. Pour le gouvernement d'Édouard Daladier, ce fut le débordement de trop. La semaine suivante, la publicité de ces exécutions était supprimée. Et dans la foule ce jour-là, un certain Christopher Lee, celui qui allait devenir acteur, avait alors 17 ans. En 1998, il racontait ce souvenir sur France Culture dans l'émission Mauvais Genre.
Il y avait une foule d'hommes, de femmes, etc. etc. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et tout d'un coup, on est arrivé, et voilà, la machine. Naturellement, je savais tout de suite. Je savais qu'est-ce que c'était. C'est la veuve rouge, la machine. Louison, Louisette, la guillotine. Je dis, mon Dieu, etc. Je peux pas. Mais bon, je pars. Oh, tu peux pas. Tu peux rester ici. Et à ce moment-là, alors, les portes s'ouvraient du prison. Il est sorti, chemise blanc, pantalon, et les mains ligotées, la chemise déchirée, à côté déjà en place, Tout était arrangé. Il avait le panier, il avait la bascule, la lunette, tout ça, l'alarme, tout ça, incroyable. Et puis, heureusement, j'ai pas vu. J'ai tourné la tête, mais j'ai entendu la descente de l'alarme. Parce qu'il y a du bruit, vous savez. Et puis, peut-être c'est l'imagination, je sais pas. Je sais pas. J'étais pas dans la direction où tombait la tête. Et puis, quand je regardais de nouveau, le panier est parti et ils étaient en train de démonter la machine. Mais quelle expérience!
Voilà une archive de Christopher Lee, écoutée en longueur sur notre site franceculture.fr. Il y a 80 ans, la dernière exécution publique en France, un article de Maxime Tellier. Le temps de ce lundi, beau et ensoleillé presque partout en France. Seule la Manche et la Normandie connaîtront quelques nuages et des brouillards matinaux. Ailleurs, larges éclaircies, les températures sont en hausse sur l'ensemble du pays. Comptez ce matin de 9 à 19 degrés du nord au sud, de 22 à 33 degrés en Provence cet après-midi.